Sophie, il est 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
On est ensemble pour les 30 prochaines minutes. On fait le tour de l'actualité française.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, l'Assemblée nationale rejette le projet de budget 2025. Le nouveau Front populaire avait largement réécrit le texte. La majorité et l'extrême droite ont voté contre ce dernier. On fait le point en début de journal. Emmanuel Macron a reçu ce mardi le secrétaire général de l'OTAN à l'Élysée. En toile de fond des discussions, l'élection de Donald Trump aux États-Unis. On reviendra sur les déclarations du président français. Les féminicides en France, plus médiatisés mais pas forcément mieux traités par les médias. C'est le résultat d'un rapport du collectif Nous Toutes. On y reviendra.
RFI.
L'Assemblée nationale a rejeté aujourd'hui le projet du budget 2025, un budget largement réécrit par la gauche. Le rejet provient des voix de la coalition gouvernementale et de l'extrême droite, le Rassemblement national. C'est tout simplement la première fois que cela se produit sous la Ve République et l'exécutif peut désormais envoyer son texte vers un Sénat à la composition plus favorable, Raphaël Delvolvé.
Beaucoup de Français l'apprennent ce soir. Ce rejet de la première partie du budget empêche l'examen de la seconde partie, le volet dépenses. Le texte part au Sénat dans sa version initiale, celle proposée par Michel Barnier et ses 60 milliards d'économies pour arriver à un déficit de 5% du PIB l'an prochain. Un projet largement modifié, pour ne pas dire totalement défiguré ici par les députés, notamment de gauche et du Rassemblement national. Beaucoup d'impôts sur les super-profits, les super-dividendes. La fin également de la contribution française à l'Europe a été votée. Il y avait, selon les estimations, jusqu'à 75 milliards d'euros de taxes. Déception, voire colère ce soir dans les rangs du nouveau Front populaire. Agacement palpable chez les macronistes qui en veulent notamment aux socialistes d'avoir trop suivi les insoumis. Chez les républicains, eux aussi membres de la coalition au pouvoir, des sourires ce soir car le texte part maintenant au Sénat donc, où la droite et le centre sont majoritaires et devraient aller dans le sens du chef du gouvernement, Michel Barnier, qui sera de toute façon obligé de revenir ici à l'Assemblée nationale avec peut-être cette fois un 49-3 sous la main.
Raphaël Delvolvé. Dans l'actualité française également, cette visite remarquée à l'Élysée, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a été accueilli par Emmanuel Macron sur fond de menaces de désengagement des États-Unis de l'OTAN et d'un arrêt du soutien américain à l'Ukraine suite à l'élection de Donald Trump. C'était la première rencontre entre le président français et le secrétaire général de l'OTAN depuis qu'il a pris ses fonctions à la tête de l'Alliance début octobre. C'était également l'occasion pour Emmanuel Macron de rappeler les priorités de la France, mais aussi de l'Union européenne en matière de sécurité. Écoutez.
Nous savons pouvoir compter surtout à la tête de l'OTAN à un moment important pour la relation transatlantique, pour l'Ukraine et pour l'Europe tout entière. Pour la sécurité de nos citoyens, il nous faut une Ukraine forte, une Europe forte et une alliance forte. Une Ukraine forte d'abord, cela veut dire que le soutien à ce pays agressé par la Russie demeure une priorité absolue. C'est l'unique voie vers des négociations. Et je veux être clair, le moment venu, rien ne devra se décider sur l'Ukraine sans les Ukrainiens, ni sur l'Europe sans les Européens. Une Europe forte, ensuite, c'est ce à quoi nous avons travaillé ensemble pendant des années dans le cadre de l'Union européenne, cher Marc, mais que nous devons aussi bâtir et chercher dans le cadre de l'Alliance en construisant ce pilier européen de notre sécurité transatlantique. Cette Europe forte dans la durée nécessite en effet une base industrielle européenne renforcée, avec des emplois pour nos citoyens et des bénéfices pour l'ensemble de nos sociétés. Enfin, c'est une alliance forte que nous voulons, capable de dissuader nos ennemis avec des plans de défense modernisés, des capacités renforcées, des matériels interopérables et une mobilité militaire facilitée sur le territoire européen.
Voilà pour ces propos d'Emmanuel Macron. Quitte l'Élysée pour le ministère de l'Éducation nationale. La ministre veut poursuivre les mesures du choc des savoirs qui prévoit notamment de mettre en place des groupes de niveau en français et en maths au collège. L'épreuve de mathématiques du bac en première sera, elle, mise en place à partir de juin 2026 sur le même modèle que l'épreuve de français, comme prévu. Et à partir de la session de juin 2027, le brevet sera rendu obligatoire pour entrer en seconde. Les réactions des syndicats laissent percevoir de la consternation. Ce ne sont pas les bonnes priorités, explique Maxime Repère, secrétaire national du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges et écoles du supérieur.
Les déclarations et annonces de notre ministre sont avant tout d'ordre pédagogique. Et nous estimons que ce type d'annonce n'est absolument pas prioritaire en ce moment, puisque, comme vous le savez, l'éducation nationale vit actuellement sa plus grande crise, avec un très très grave problème de recrutement à tous les niveaux et un très grave problème d'attractivité du métier. Là, à l'heure actuelle, faire ce type d'annonce, c'est simplement faire des annonces pour des annonces. Ça ne résoudra pas le problème de réussite de niveau des élèves. Donc, effectivement, les priorités sont ailleurs. Deuxièmement, les différentes annonces, que ce soit par rapport au brevet, par rapport au groupe de besoins ou à l'épreuve anticipée de mathématiques, très concrètement, ce ne sont ni plus ni moins que des usines à gaz.
Des propos recueillis par Olivier Sherman. 117, c'est le nombre de féminicides recensés par le collectif féministe Nous Toutes depuis le début de l'année. Une enquête de ce collectif publiée hier souligne notamment l'évolution du traitement médiatique des féminicides entre 2017 et 2022. Les médias français en parlent davantage, mais pas forcément mieux, car tous les féminicides ne sont pas traités de la même manière, Baptiste Coulon.
Le constat est clair. Entre 2017 et 2022, le nombre d'articles mentionnant le terme féminicide a été multiplié par 28. Le traitement s'améliore, mais il demeure à sens unique.
La percée médiatique du terme féminicide s'est accompagnée d'une restriction de sa définition.
Clémentine Choubrac est co-autrice de l'enquête.
Pour les médias, le féminicide, c'est le féminicide conjugal, au détriment des féminicides familiaux, un père qui tue sa fille, et des féminicides sociaux par des collègues, un ami ou un inconnu sur une femme parce qu'elle est une femme.
Familiaux ou sociaux, ces féminicides sont peu médiatisés. Ils représentent pourtant un quart des cas. Plusieurs raisons, note le rapport. L'absence de décompte spécifique avant 2022 et la non-prise en compte de ces féminicides dans les statistiques publiques. Certains féminicides sur le lieu de travail sont même invisibilisés, note le rapport, qui cite ceux envers les travailleuses du sexe.
Parce que leur existence remet en question les injonctions qui portent sur la féminité, donc on demande aux femmes d'être de bonnes mères par exemple, et quand une femme fait voler en éclats ces injonctions, on ne peut pas la voir comme une victime légitime.
Préconisation du rapport parmi une dizaine d'autres, celle de ne plus traiter les féminicides comme des faits divers, mais bien des faits de société.
Baptiste Coulon, alors que la COP29 se déroule en ce moment même en Azerbaïdjan, on s'intéresse à cette question, comment adapter nos villes au changement climatique? La mairie de Paris s'est penchée sur le sujet, elle a présenté ce mardi un vaste plan climat de 400 actions avec des objectifs ambitieux, Margot Ratézic.
Paris sous des pics à 50 degrés, c'est ce que prédisent les scénarios les plus pessimistes d'ici 25 ans. Et les premiers touchés, ce sont bien souvent les habitants des quartiers populaires, comme l'explique Mélodie Tonoli, adjointe à la mairie chargée de la politique de la ville.
En hiver, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas se chauffer correctement. Et l'été, ils sont plus touchés au moment des vagues de chaleur, notamment parce que les logements sont plus petits, parce qu'il y a moins d'espaces verts dans les quartiers populaires à Paris.
Ce quatrième plan climat entend donc réduire les inégalités sociales et environnementales, un programme inspiré de mesures déjà adoptées dans d'autres villes du monde. Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris en charge du plan climat.
Je pense notamment à des villes comme Barcelone, qui a pris des décisions très, très importantes en termes d'urbanisme, en termes de désimperméabilisation.
L'exemple parisien s'exporte lui aussi, comme à Londres, ajoute Dan Lert.
La possibilité de se baigner dans la Seine, la stratégie de dépollution du fleuve, de restauration écologique du fleuve inspire des villes comme Londres qui ont envie de faire la même chose par exemple sur la Tamise.
La transition écologique à Paris se veut donc collaborative avec un objectif en ligne de mire, atteindre la neutralité carbone en 2050.
C'est la fronde dans l'Opéra de Paris. À l'heure actuelle, il faut passer un concours pour monter dans la hiérarchie du corps de ballet. Sauf que les délégués du ballet de l'Opéra souhaitent le supprimer en raison du stress et de la souffrance qu'il engendre pour les danseurs tous les ans. On en parle avec Muriel Malouf.
Le ballet de l'Opéra, c'est en quelque sorte une armée de danseurs. 150 en tout, répartis en 5 échelons. Dans cette structure pyramidale, les quadrilles sont au bas de l'échelle, puis viennent les coryphées, les sujets, les premières et premiers danseuses et danseurs, et enfin les étoiles qui brillent dans les solos. Le concours est le seul moment de l'année probablement où, quand on est au bas de la hiérarchie, noyé dans les mouvements d'ensemble du corps de ballet, on peut exécuter seul sur scène une variation devant un jury composé du directeur de l'opéra, du directeur de la danse, entre autres, mais aussi devant un public. Certes, le risque est qu'on ne soit pas dans sa meilleure forme ce jour-là. Alors que faire de ce concours fondé en 1860, près de deux siècles après la création de la compagnie par Louis XIV? Les avis sont partagés au sein de l'opéra qui s'accorde une année de réflexion et d'expérience. Le 16 novembre prochain, le concours sera uniquement à l'attention des quadrilles. Quant aux modalités des autres promotions, elles restent à définir en concertation avec les danseurs et les syndicats.
Muriel Malouf, 24 heures en France, continue. Restez avec nous.
24 heures en France. Juliette Pietraszewski.
Et on va prendre la direction du nord de la France. Depuis le mois de janvier, près de 32 000 personnes ont traversé clandestinement la Manche, la mer qui sépare la France et l'Angleterre. Et c'est déjà plus que sur toute l'année 2023. Avec une météo plutôt clémente au mois d'octobre, ce sont plus de 5 200 personnes qui ont pu rejoindre les côtes britanniques. Un record mensuel depuis le début du phénomène en 2018. Et malgré les dangers, les conditions de vie dans les campements de fortune des côtes du nord de la France, ils sont toujours plus nombreux à vouloir prendre le risque. Marie Casadebé a rencontré à la sortie de Vimereux, une petite station balnéaire huppée du Pas-de-Calais, un groupe d'exilés prêts à prendre la mer. Reportage.
Au bord d'une route de campagne, à l'abri d'un sous-bois, une trentaine de jeunes hommes ont trouvé refuge ici. Dindin, qui préfère nous parler en anglais, est marocain, une nationalité rare dans les campements du nord de la France. Il a 24 ans, cela fait près de 4 ans qu'il est sur les routes. Cela fait combien de temps que vous vivez dans ce camp ?
Pour moi, cela fait 7 ou 8 jours. Pour ce gars-là, ça fait
2 mois.
Mais alors, quand pensent-ils pouvoir prendre la mer et atteindre enfin leur but ?
On ne sait pas. On attend juste une chance que le bateau vienne. Et si le bateau ne vient pas, on restera ici cet hiver, dans la neige. Peut-être qu'on mourra ici.
Leur avenir est suspendu à un message qui leur indiquera un point de rendez-vous. Je demande alors à Zindin comment il est entré en contact avec un passeur.
Je ne veux pas parler de ça, je ne veux pas, désolé.
Mouaz, un Éthiopien d'une vingtaine d'années, s'approche du micro.
Ceux qui ont traversé la mer envoient des numéros à leurs amis. Et le numéro se transmet d'ami en ami.
Et est-ce que je peux connaître le prix d'une traversée ?
1,5K.
1500 euros.
Vous aussi ?
Tout le monde paye 1500.
1500 euros la traversée, elle est le plus souvent précédée de nombreux départs ratés.
J'ai tenté 4 fois. Soit on est tombé sur la police, soit on n'a pas trouvé le bateau.
Oui, moi j'ai essayé 2 fois. Ils nous ont envoyé un point GPS. La première fois, j'ai marché 35 kilomètres. J'ai marché avec des enfants, des familles, des femmes. C'était trop dur. C'était la nuit, à travers les dunes et la forêt. Ils nous attendaient dans la forêt. On n'a pas pu bien les voir parce qu'ils portaient des masques. Ensuite, ils sont restés à quelques mètres de la mer et nous ont dit « c'est dans cette direction ».
Le bateau est parfois très loin du bord, 100 ou 200 mètres au large.
Can you swim? Vous savez nager?
Non, je ne sais pas nager. Il y avait beaucoup trop d'eau.
C'était effrayant, mais vous êtes prêt pour autant à réessayer.
Moi, j'oublie la peur quand j'entends que quelqu'un est passé en Angleterre. Quand j'ai quitté l'Érythrée, j'ai traversé 5 pays. Le Soudan, la Libye, l'Italie, l'Allemagne et maintenant la France.
Donc, vous avez traversé la Méditerranée.
C'était tellement dur que je n'ai pas envie de me remémorer ça. Désolé.
We stop, okay. Trop dur pour ne pas aller au bout et rejoindre cet ami d'enfance qui l'attend en Angleterre. Un ami qui a obtenu l'asile, a repris des études et fait rêver Mouaz.
Reportage de Marie Casadebé à retrouver sur RFI.fr. RFI, il est 18h13 à Fort-de-France.
Le journal de l'Outre-mer.
Présenté par Alex Léveillé, l'actualité en Martinique et le mouvement du RPRAC qui continue sa mobilisation. Bonsoir Alex.
Madame, Monsieur, bonsoir. Échange tendu hier soir entre le leader du RPRAC, Rodrigue Petitot, et le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier. Ça s'est passé à la résidence préfectorale à Fort-de-France. Le représentant de l'État n'a pas laissé les membres du RPRAC voir le ministre des Outre-mer et le temps est monté. Écoutez ses échos.
Aucune demande de rendez-vous. Le geste de la Martinique, c'est devant le ministre. D'accord ? Ça veut dire que là, ça fait un bon moment qu'on parle.
Vous parlez différemment, s'il vous plaît. Vous me parlez différemment. Vous croyez que vous parlez ?
Arrêtez !
Ne le touche pas, tu comprends pas? Pas meilleur.
Différemment.
Ne me touche pas.
Ne me touche pas.
Calmez-vous.
Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas.
Voilà pour cet échange tendu hier soir à la résidence préfectorale entre des membres du RPRACT et le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, et des plaintes viennent d'être déposées. Mais que s'est-il réellement passé? Xavier Chevalier de Martinique, la première.
Il était 20h40 quand plusieurs individus, dont Rodrigue Petitot, dit le R, se sont présentés devant la résidence préfectorale, où une réception en l'honneur de l'arrivée du ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, avait lieu. Les militants ont tenté de pénétrer de force, mais l'accès leur a été refusé car ils n'étaient pas invités. C'est alors qu'un des manifestants, avec sa voiture, a essayé de contraindre un des policiers présents sur place à le laisser passer. Alors que l'avant du véhicule était en contact avec les jambes de l'agent, plus d'une soixantaine de voitures sont arrivées simultanément. Dans la confusion, la réserve opérationnelle située à quelques mètres de la scène est intervenue. Dans la pagaille, quatre individus ont réussi à se faufiler entre les épaules des forces de l'ordre. Ils ont accédé jusqu'au perron de la résidence préfectorale, malgré les injonctions des policiers de faire demi-tour. Sur place, ils se retrouvent face au préfet, débute alors un dialogue de sourds. Le représentant de l'État leur demande de partir et de passer par la voie légale pour demander un rendez-vous au ministre. Rodrigue Petitot, lui, demande à être reçu immédiatement par le ministre. Le ton monte, la tension également. Les échanges sont filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. L'échange se termine après que les forces de l'ordre escortent les contrevenants à l'extérieur du site. Selon nos informations, des plaintes ont été déposées à l'encontre des militants qui sont notamment accusés d'avoir pénétré sur une propriété privée.
Et le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, en visite en Martinique, n'a toujours pas prévu de rencontrer les membres du RPRACT et condamne fermement l'intrusion à la résidence du préfet François-Noël Buffet.
En arrivant hier en Martinique, ma volonté était de recevoir évidemment l'ensemble des interlocuteurs qui souhaitaient pouvoir échanger avec mes collaborateurs ou avec moi-même en fonction de l'ordre du jour possible et des possibilités. La situation d'hier soir et le comportement d'hier soir met fin à cette possibilité-là, à tout le moins provisoirement. Ça n'est pas acceptable de fonctionner comme ça.
Et il y a plusieurs jours, le RPRACT a lancé un appel au boycott des grandes surfaces. Mais qu'en pense la population? Mike Iras leur a posé la question.
Message reçu pour Jean-Antoine, pour qui cet appel fait totalement sens. Le jeune homme exprime clairement ses attentes.
Le boycott est totalement légitime et en cohérence avec le mouvement qui est amorcé depuis quelques semaines déjà. Je pense qu'il serait temps que la Martinique se décide enfin à réduire la taille de ses supermarchés et qu'on passe à, comme avant, des enseignes de proximité.
Mais avec cette jeune maman, qui nous montre un caddie plutôt léger en course, on est tout de suite dans le concret et les réalités du quotidien.
Vu que tout est cher, on ne peut pas se permettre de faire maintenant des chariots de course. Moi, étant donné que j'ai deux enfants en bas âge, c'est carrément impossible que je fasse un chariot de course, on va dire pour le mois, ce que je pouvais me permettre avant.
Pour cette autre cliente, c'est carrément l'avenir de la production martiniquaise qui est en jeu, même si ça fait parfois mal au porte-monnaie.
On peut observer que les prix sont nettement plus importants chez nos locaux. Il faut quand même faire un sacrifice pour que nous puissions avancer.
Quant à Roger, l'homme reconnaît que le passage en grande surface est inévitable pour l'achat de certains produits. Mais à l'écouter, le soutien à la production locale est plus qu'un acte solidaire. C'est un véritable coup de pouce.
Il y en a des besoins qu'on est obligé d'acheter. Oui, c'est tout. Qu'on lessive, machin comme ça, on peut acheter un supermarché.
Des témoignages qui illustrent que le rapport des Martiniquais à la vie chère et l'alimentaire est plus complexe et nuancé qu'il n'y paraît peut-être.
Et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous.
Merci Alex, bonne soirée également.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Conseil présenté par Caroline Paré avec ces questions qui peuvent vous intéresser. Comment faire quand bébé ne fait pas ses nuits? Faut-il coucher son enfant à heure fixe? Comment savoir s'il est fatigué? Quid des différentes techniques d'endormissement et combien de temps la sieste est-elle nécessaire? Les réponses à toutes vos questions avec la professeure Mariem Soda Diop-Sen, neurologue, épileptologue et neurophysiologiste à l'hôpital de Fane de Dakar au Sénégal.
Professeur Mariem Soda Diop-Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes neurologue, épileptologue et neurophysiologiste à l'hôpital de Fane de Dakar au Sénégal. Au bout de combien de temps un bébé peut-il faire ses nuits, ne plus être nourri pendant la nuit?
Un bébé, à partir de 18 mois, 2 ans, il devrait pouvoir avoir un sommeil de nuit plus ou moins continu, parce que son rythme de sommeil change, ses cycles de sommeil se calent un tout petit peu plus sur les cycles du grand enfant et de l'adulte, et donc il fera ses nuits.
Est-ce que ça veut dire pour autant que les parents qui viennent d'avoir un bébé vont devoir attendre un an et demi avant de faire une nuit complète ?
Peut-être. Ce qui se passe, c'est que les phénomènes qui régulent le sommeil chez le nouveau-né, le nourrisson, sont un peu différents de ceux qui régulent le sommeil chez le grand enfant et chez l'adulte. Parce qu'en fait, de 0 à 3 mois, l'enfant, il est soumis à un rythme biologique qui est interne, qui est rythmé par les besoins, en fait. Il est mal, il a faim, il s'est sali, il se réveille. Mais sinon, c'est un nouveau-né qui dort 14 à 17 heures par jour. Il y en a même qui dorment 20 heures par jour. Et c'est vers 4 mois que la durée de sommeil diminue. Il va dormir 12 heures. Progressivement, il aura besoin de 10 heures, 11 heures de sommeil vers 1-2 ans. Et donc, son sommeil va se déplacer sur la nuit. Et là, il sera soumis en fait à la régulation circadienne, c'est-à-dire l'alternance jour et nuit, et en plus de la régulation homéostasique, c'est-à-dire interne, qui est liée aux besoins, à la faim, à la température et aux différentes hormones qui sont sécrétées.
Merci beaucoup, professeur Mariam Soda Diopsen. Aujourd'hui, Priorité Santé, on parle du rôle du jeûne intermittent pour la santé, pour ralentir le vieillissement, pour perdre du poids. Quels sont les horaires pertinents et les menus conseillés pour rester en forme? C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Le Conseil Santé avec Caroline Paré. Et on parle musique à présent avec un trio de choix issus de la même famille. Le chanteur Alain Souchon et ses deux fils, Pierre et Charles, se sont lancés dans un tour de France d'une centaine de dates qui se terminera en avril prochain. Ensemble, ils interprètent les grands succès d'Alain Souchon, mais aussi des titres plus confidentiels de celui qui est considéré comme l'un des plus grands auteurs de chansons en France. À partir de ce soir et pour une dizaine de dates, le trio fait étape au Casino de Paris. Edmond Sadaka s'est entretenu avec eux.
La petite Bill, elle est malade. Elle a besoin d'une promenade avec un qui serait son amoureux. Une ou deux.
Bonjour Alain Souchon. Bonjour Pierre. Bonjour Charles.
Bonjour.
Ce spectacle familial, il débute par cette chanson qu'on entend, une chanson mélancolique de 1977, La petite Bill. Pourquoi avoir choisi cette chanson très nostalgique en ouverture, Alain Souchon?
C'est parce qu'elle est calme et qu'elle installe quelque chose, un climat un petit peu tristoun, mais en même temps, elle est un peu connue, donc c'est une valse en même temps. Alors c'est léger, un tout petit peu, voilà.
Pierre?
On a assumé d'ouvrir le concert par des chansons très dépouillées, comme ça, très fragiles, pour installer un climat. Et puis La petite Bill, mon frère et moi, ça nous fait penser un petit peu à notre mère.
En effet, on campe un peu le décor par ce tableau-là où on est nous trois au piano et où on mêle nos trois voix. Et ça montre bien l'esprit du concert.
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide?
Comment s'est faite la sélection des chansons, Pierre Souchon?
C'est surtout mon frère et moi qui avons choisi les chansons. Mon père était ouvert en disant, voilà, je chanterai ce que vous avez envie. Il avait des envies aussi, on a échangé. Mais on a décidé, nous, de faire qui chantent des chansons qu'ils n'avaient pas chantées depuis longtemps, qui sont pour nous des Madeleines de Proust.
La chanson qui clôt le spectacle, c'est l'un de vos titres les plus connus, Allô Maman Bobo. Elle est indissociable de votre personnage, cette chanson, Alain Souchon.
Elle a eu beaucoup de succès. À mon âge, c'est un peu ridicule de la chanter, mais comme c'est un souvenir, c'est l'un des premiers gros succès que j'ai eu. Chanter ça à 28 ans, ça va. À 80 comme moi maintenant, c'est un tout petit peu... Mais je le fais parce que c'est une chanson connue, tout le monde chante et tout, alors j'aime bien, c'est agréable.
Est-ce qu'un album commun de vous trois serait d'actualité aujourd'hui, Alain?
Oh, chacun son... La création, c'est pas la même chose que l'exécution comme ça, où on est heureux de chanter des chansons, pour chanter la Marseillaise ou autre chose, à trois, ça va tout seul. Mais la création, c'est pas la même chose.
Charles ?
On a juste écrit une chanson à trois. Pour cette tournée, on a quand même voulu faire une chanson à trois, mais on a trouvé un moyen de chacun raconter notre histoire dans les couplets. On se rejoint dans le refrain, et c'est comme un passage de relais, où après chacun écrit son texte.
Quel est ce titre ?
À quoi tu penses ?
Est-ce que vous pourriez nous le fredonner quelques secondes pour finir ?
À quoi tu penses ? À quoi tu penses ? En ce moment.
C'est parce que.
Merci Alain Souchon. Merci Pierre. Merci Charles.
On était belle image, les amoureux. Fortiche, on a monté le ménage, le bonheur à deux. Je t'en fiche, vite fait, les morceaux de fer qui coupent et ça saigne. La voilà sur le carrelage et la porcelaine. Nous, on n'a pas tenu le coup. Boubou, ça coule sur ta joue. On se quitte, y a rien qu'on explique. C'est l'amour. J'ai dormi, un enfant est venu dans la dentelle. Partir, revenir, bouger, c'est le jeu des hirondelles. À peine installé, je quitte le deux pièces cuisine. On peut s'appeler Colette, Antoine ou Sabine. Toute ma vie, c'est courir après des choses qui sauvent. Des jeunes filles parfumées, des bouquets de pleurs. Des roses, ma mère aussi mettait derrière son oreille une goutte de quelque chose qui sentait pareil. Nous, on n'a pas tenu le coup. Boubou.
24 heures en France, c'est fini. Merci à Mel Guillot à la technique, Loïc Bussière à la rédaction en chef, Eric Di Cristianjo à la note, et c'est Mathis Limano aux commandes des journaux de la nuit. Tout de suite, la bourse.
L'indice Dow Jones recule de 382 points et retombe à 43 911. L'indice du Nasdaq cède 17 points et finit à 19 281. Après une belle série de hausses et de records, les marchés d'actions marque le pas, c'est la première baisse de Wall Street depuis le lendemain des élections américaines la semaine dernière. La détérioration du marché obligataire continue, elle pèse clairement sur les actions. Aujourd'hui, le rendement du T-bond à 10 ans remonte à 4,43, sur l'impression qu'à partir du 20 janvier, date d'entrée à la Maison Blanche de Donald Trump, le Congrès va s'employer rapidement à reconduire les baisses d'impôts qui expireraient fin 2025, et le nouveau président imposera de premières surtaxes douanières qui pourraient relancer la hausse des prix. En attendant, les investisseurs vont analyser de près l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre. Demain, on anticipe un gain de 0,2%, mais encore une hausse de 0,3% si l'on ne tient pas compte de l'énergie et des produits alimentaires. La persistance d'une inflation dans les services, plus élevée que le niveau toléré par la Fed, continue d'affecter le marché obligataire. La conséquence immédiate de la hausse des rendements obligataires est l'appréciation du dollar. L'euro en retombe à 1,0617. Face à un panier de grandes devises, le dollar remonte au plus haut depuis 2 ans. La conviction de plus en plus répandue selon laquelle la Banque centrale américaine va probablement moins baisser ses taux l'an prochain qu'on ne l'imaginait encore il y a 2 mois, dope la monnaie américaine. Le pétrole américain est inchangé à un peu plus de $68 le baril. Le Dow Jones aujourd'hui recule de 0,9%, le Nasdaq cède 0,1%.
Merci Pierre-Yves Dugas.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Rejoignez-nous pour débattre avec Tiken Jafakoli, rédacteur en chef exceptionnel de l'émission. Il vous propose de réagir à la victoire de Donald Trump. Quelles conséquences pour l'Afrique ? Et en pleine COP29, nous parlerons réchauffement climatique. Comment l'Afrique peut-elle s'adapter ?
33
9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
Rastafari.
Bonjour, c'est Tiken Jafakoli. Ce mercredi 13, je serai avec vous toute la journée sur RFI.
Le 13 novembre, Tiken Jafakoli est l'invité spécial de RFI. Retrouvez-le dans les tranches d'information et les émissions de RFI en français, en malinké et en foufouldé.
Et le soir, je vous invite, vous les auditeurs, à mon concert.
À 19h40 TU, ne manquez pas le concert du reggaeman panafricain en direct de la salle Playel à Paris.
Rastafari, African Revolution.